Terre, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir le centenaire de l'armistice de 1918, ce cessez-le-feu le 11 novembre 1918 qui marque le début d'une sortie de la Première Guerre mondiale, sortie qui sera longue. 14-18 au total, bilan effroyable, 10 millions de morts, 20 millions de blessés parmi les soldats en France. 1 400 000 morts, 2 millions de morts en Allemagne. Ce soir au téléphone sonne, on s'intéresse aux conséquences de cette guerre. Les hommes politiques qui ont façonné le monde de cette après-guerre, la nouvelle carte de l'Europe et du Proche-Orient, les traités de paix notamment, celui de Versailles vécu comme un diktat par les Allemands, une humiliation. Des historiens sont là, prêts à vous répondre.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Je vous les présente, Emmanuelle Cronier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie. Jules Verne est membre du comité scientifique du centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Vous avez publié en 2013 ce livre aux éditions Belin, Permissionnaire dans la Grande Guerre. Et puis Franziska Heimberger, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, là encore, maître de conférences en civilisation britannique à l'université Paris-Sorbonne et membre du comité directeur du centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Vous aussi, vous avez publié un livre en 2013 avec John Horn et son titre c'est « Si vous mentez, vous serez fusillé ». Dans les studios de nos amis de France Bleu Occitanie à Toulouse, et merci à Philippe Jurado qui nous permet d'établir cette liaison, Yann Bouvier, bonsoir.
Bonsoir.
Yann Bouvier, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Clémence Royer à Fonsorbe, en Haute-Garonne, et initiateur d'un projet pédagogique sur 14-18. Voilà, nos invités, tout de suite les questions des auditeurs. On va retrouver au standard Agnès qui souhaitait intervenir. Bonsoir Agnès.
Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Donc voilà, moi en 1969, j'étais étudiante en maîtrise de lettres et j'ai participé pour mon mémoire de maîtrise à un groupe interdisciplinaire de recherche sur les méthodes d'acculturation de la gauche. Je tiens à le préciser parce que donc il s'agit de la gauche. Sous la Troisième République. J'ai été chargée d'analyser les conséquences de la guerre à travers les romans français parus entre 1918 et 1925. Oui. Donc j'ai lu pour ce travail environ 200 romans recensés dans des revues de gauche, Europe, Clarté, Progrès Civique. Bon, il m'est complètement impossible de rendre compte de toutes les conséquences, mais ces romans mettent en scène des jeunes gens qui sont partis la fleur au fusil, abreuvés d'une propagande revancharde et qui ont pris conscience qu'ils servaient de chair à canon pour offrir des débouchés aux Krupp et Devendel et à leurs aciéries. Cela les a conduits à remettre en cause radicalement les valeurs au nom desquelles cette boucherie épouvantable leur a été imposée. La guerre est dénoncée comme un instrument permanent aux mains du grand capital et ils voient clairement la perspective d'un nouveau conflit mondial aggravé par les conditions du traité de Versailles qui mettait l'Allemagne plus bas que terre.
Agnès,
le mot d'ordre qui ressort en
Agnès,
conséquence
quel est
non à toutes les guerres, guerre à la guerre.
Oui.
Et la question que je pose, c'est dans quelle mesure est-ce que ça peut expliquer qu'un certain nombre, en particulier d'intellectuels, se soient abstenus dans la lutte contre le nazisme, parce qu'ils luttaient contre la haine anti-allemande qui leur avait été imposée, et ils ont refusé, au moment du nazisme, de se prononcer contre.
On va vous répondre, Agnès. On va vous répondre, Emmanuelle Cronier, sur tous ces points qui ont été soulevés par Agnès. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur le site de l'émission qui recoupent un peu ce que disait Agnès et la lecture, toutes ces lectures qu'elle a pu faire. On nous écrit, est-ce que dans les années 20, il y avait un rejet total de l'idée de guerre qui expliquerait la passivité, notamment en France, face à Hitler qui réarmait l'Allemagne et on devinait que il allait se passer des choses extrêmement graves, qu'il avait une agressivité, une volonté de guerre. Mais en France, traumatisé par 14-18, on disait non, plus de guerre, on prononce même pas le mot.
Alors, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, c'est un esprit qui se met en place, en fait, dès la Première Guerre mondiale. On n'attend même pas, en fait, la fin du conflit. C'est quelque chose qui nourrit beaucoup ce qu'on a appelé l'esprit ancien combattant. Cette idée du plus jamais ça et de der, qui était vraiment massif et très répandu dans les milieux anciens combattants. Les grandes associations d'anciens combattants, elles rassemblent jusqu'à 1 million de personnes, la plus grande des associations d'anciens combattants. Ils sont vraiment portés par cet état d'esprit pacifiste qui, de fait, à partir des années 30, en 33, notamment au moment de Munich en 1938, effectivement, hein, explique cette passivité face à Hitler. Maintenant, voilà, c'est vrai que dans l'ensemble des témoignages combattants, des récits combattants qui sont publiés et dont parlait Agnès, il n'y a pas que cet esprit de fleur au fusil, la propagande revanchard. C'est une vision quand même assez réductrice, hein, de tout ce discours qui est porté par les anciens combattants pendant et après la guerre.
Franziska Heimburger, je rappelle, historienne, est-ce qu'il y avait, malgré cette idée, plus de jamais la guerre, est-ce qu'il y avait chez les Français et les Allemands toujours une haine réciproque, une hostilité dans la population ?
Ben, il est difficile de faire la part d'une hostilité si on pense à la part du deuil dans les sociétés qui reste. Hein, il suffit pas d'en finir avec la guerre pour que tout ça disparaisse et pour que les gens se disent bon, on passe à autre chose. Donc il y a un deuil, une douleur qui reste dans les familles, dans les sociétés, que ce soit en France ou que ce soit en Allemagne, c'est pas quelque chose où on peut passer la page et passer à autre chose complètement après. Donc une hostilité, une ennemidité, et puis qui se combine avec après effectivement les ressentiments qui sortent côté allemand après le traité de Versailles, le sentiment d'avoir été traité injustement, qui se combine avec ça, avec les résultats qu'on connaît après.
Christine nous appelle et souhaiterait intervenir, poser une question ou témoigner. Bonsoir Christine, bienvenue.
Oui, bonsoir. C'est plutôt un témoignage et merci de l'entendre. Voilà, donc mes deux grands-pères ont fait la guerre, la grande guerre, surtout un qui était en médecine et il était recruté dans les ambulances et il allait ramasser les petits morceaux des copains et il s'en est jamais remis, le pauvre. Voilà, donc et moi, il se trouve que J'ai épousé un Allemand et il n'y a absolument aucun problème, ni de ma belle famille allemande, ni de ma famille française. On s'est accueillis avec la plus grande joie, sans le moindre problème. Des fois, mon mari, Günther, des fois, il a l'impression qu'en France, on a encore des problèmes par rapport aux Allemands. Je dis non, ça n'existe pas. Voilà, si c'est vraiment maintenant, je crois que ça va bien, très bien. Donc, c'est pas très facile d'être un couple franco-allemand, oui. Mais c'est quelque chose qui est porteur d'espoir.
Chose,
voilà, porteur de on peut ne pas oublier, parce qu'il faut oublier.
Bien
mais
sûr.
Tourner la page et avoir une Française, un Allemand, et vivre un amour, vivre un mariage, vivre
bien
un
sûr.
Avenir.
Bien
et
sûr.
Sans que les belles familles qui ont vécu la guerre. Parce que ma mère et ma belle-mère, oh, la tuberculose, ils sont bavés. Et ben, on se tombe dans les bras, on se tutoie et ça se passe bien. Alors, c'est peut-être un petit peu idyllique, mais c'est véridique.
Merci voilà. Christine d'avoir témoigné ce soir dans le téléphone sonne. On a des questions très précises d'auditeurs, sans doute jeunes, qui évoquent aujourd'hui l'espace Schengen. On va en Allemagne, il n'y a plus de frontières. Après cette guerre de 14-18, des Français allaient en Allemagne, des Allemands venaient en France, traversaient la frontière, où est-ce qu'il y avait toujours la trace terrible de tous ces morts durant cette guerre? Est-ce qu'il y a eu un temps pendant lequel il fallait que ces deux peuples réapprennent à se côtoyer, à se fréquenter? Franziska Heimburger.
Mais c'est sûr qu'il y a une première période juste après la guerre de tension où c'était peut-être moins évident, mais après avec ce qu'on appelle l'esprit de Locarno qui à partir de 1925 en fait est signe d'un certain espoir. On espérait que suite donc à ces négociations qui ont mené à un apaisement des relations internationales, qu'on arrive à assurer une paix qui serait plus durable, qui serait moins sujette à des tensions que ce qu'on avait eu juste à la sortie du traité de Versailles. Donc il y avait cet esprit qui, à partir de 1925, régnait. Alors, on sait que ça n'a pas duré très très longtemps, mais il y a eu une période dans l'entre-deux-guerres où on pouvait légitimement espérer que la paix dure.
Beaucoup de questions, et là je me tourne vers Yann Bouvier qui se trouve dans les studios de France Bleu Occitanie à Toulouse. Yann Bouvier qui est professeur d'histoire-géographie dans un lycée à Fonsorbes et qui est initiateur d'un projet pédagogique sur 14-18. Yann Bouvier, on a beaucoup de questions sur ce fameux traité de Versailles. Et on nous demande, hein, les auditeurs, Catherine par exemple, elle nous demande, mais qui était présent à Versailles? Qui a négocié? Comment s'est déroulé cette réunion à Versailles qui devait établir sur du papier un traité de paix entre l'Allemagne et tous les adversaires de l'Allemagne durant cette guerre de 14-18?
Eh bien, ce sont essentiellement les gouvernants des pays belligérants, des représentants du gouvernement français, notamment du gouvernement allemand. Le traité de Versailles est un traité de paix qui ne concerne que la question de l'Allemagne. Et donc, voilà, ce sont essentiellement ces personnalités-là qui s'y sont retrouvées.
Mais les Allemands, ils ont eu leur mot à dire, ils pouvaient défendre leurs intérêts ou on les a mis devant le fait accompli? C'est une question qui revient très souvent sur le site. Yann Bouvier.
Il y a eu des tentatives de négociation de paix antérieures à 1918, déjà dès 1916-1917. À l'été 1918, il y a eu des tentatives de négociation et les Allemands les ont repoussées, les ont balayées de la main parce qu'ils estimaient que les conditions qu'on leur imposait étaient trop difficiles. Et puis la situation militaire, la stabilisation du front de l'Ouest en novembre 1918 a été très défavorable aux Allemands, ce qui les a placés dans une situation dans laquelle ils n'avaient pas véritablement la faculté de négocier au moment du traité de Versailles.
Alors il y a une formule qui revient très souvent, qui est utilisée, Franziska Amberger, historienne, le traité de Versailles, ce serait un traité de paix bâclé.
On peut aussi mieux juger une fois qu'on a vu la suite qui s'est passée après. Mais ce qui est très intéressant dans le traité de Versailles et de comment ça s'est constitué, à la limite, et ça souvent on le lit moins dans les livres d'histoire, c'est comment ça a pu se négocier même pratiquement au niveau des langues, comment les gens se sont parlé. Et il y a une histoire très amusante à écrire sur les interprètes qui ont servi pour faire ça. Justement, comment on fait quand des chefs d'État se rencontrent? Et ben, ils partagent pas forcément la même langue. Et du coup, il faut des interprètes qui relaient, ça peut amener des suspicions. Est-ce qu'on serait pas en train de désavantager les uns les autres? Et donc, le traité de Versailles, c'est un bel exemple de comment on gère ces différences nationales et comment on gère même juste du côté allié.
Emmanuel Cronier, historienne.
Oui, très clairement, en fait, le traité de Versailles avec l'Allemagne, c'est un traité qui est négocié entre vainqueurs. C'est-à-dire, c'est Lloyd George pour la Grande-Bretagne, Clémenceau pour la France, Wilson pour les États-Unis qui sont présents. Et les vaincus sont complètement, en fait, écartés, effectivement, des négociations. Ils n'ont pas leur mot à dire. Il n'y a pas non plus la Russie bolchevique. Et en ce sens, on peut dire que c'est bien quelque chose qui est imposé à l'Allemagne, comme d'ailleurs aux autres pays vaincus qui n'auront pas leur mot à dire et qui est porteur en fait de tensions et en germe d'énormes frustrations pour les années d'après-guerre, puisque du côté des vaincus, il y aura tout au long de ces années 20 et 30 principalement un esprit de revanche massif qui est né en fait dans les conditions de négociation de ce traité de paix qui ont été faits vraiment entre vainqueurs strictement.
Mais on est un peu surpris quand même, on rend souvent hommage à Clémenceau, homme d'État, Woodrow Wilson, qui est quand même celui qui a inventé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était une de ses théories, il l'a défendue pour redessiner la carte de l'Europe. Ces hommes d'État n'ont pas compris qu'en allant trop loin, dans des conditions extrêmement dures imposées à l'Allemagne, il y avait un danger pour le futur, ils n'ont pas compris ça.
Je pense que en fait, le Wilson, Clémenceau et Lloyd George, ils ne voient pas les choses de la même manière du tout. C'est-à-dire que Wilson, sa priorité, c'est effectivement d'être dans une logique de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein. C'est ça, d'installer la paix à long terme. Les Britanniques, leur priorité, c'est l'équilibre des puissances européennes et plutôt de ménager l'Allemagne. Alors que les Français, notamment portés par la voix de Clémenceau, ils sont dans cette logique effectivement de d'éviter en fait la reconstitution de l'Allemagne, en particulier économique et aussi diplomatique, et de l'isoler en plus au sein de l'Allemagne, qui explique aussi tout ce glacis de nouvelles puissances qui sont constituées autour de l'Allemagne, avec une réduction de la population, enfin du territoire allemand, et un éclatement des populations germanophones en fait sur les territoires pour isoler cette Allemagne. Donc en fait, finalement, c'est pas très différent d'aujourd'hui, où au sein, c'est difficile d'avoir des consensus diplomatiques par rapport à des questions qui sont de fait complexes, quand on voit notamment la situation des populations en Europe centrale à l'époque, puisque c'est là que sont les principaux enjeux.
Yann Bouvier, à Toulouse, professeur, enseignant.
Oui. En fait, cette question de l'impact que le traité de Versailles aurait pu avoir sur le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a été révisée par l'historiographie, une historiographie relativement récente. En fait, ça renvoie surtout à l'argumentation des pacifistes français dans les années 30, qui, eux, demandaient la révision du traité de Versailles à cause de l'article 231 qui, justement, imputait la responsabilité du conflit aux Allemands et qui considéraient qu'en les humiliant, on était en train de poser les germes d'un conflit à venir. Mais il y a des travaux plus récents d'historiens anglo-saxons qui nous permettent de considérer aujourd'hui que le traité de Versailles n'est pas à l'origine directe de ce conflit. En 1928, l'Allemagne siégeait, par exemple, à la Société des Nations. Elle faisait partie de la communauté internationale. On parlait d'États-Unis d'Europe. C'est plus la bascule vers le nazisme qui véritablement a finalement réveillé les rancœurs entre la France et l'Allemagne.
Au standard, Philippe nous appelle. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, je vous remercie de prendre ma question. Je voulais vous aborder la question de cette boucherie immense, comme tout le monde en témoigne ce soir, y compris par rapport à mon grand-père, qui était donc en première ligne en 1917 au Chemin des Dames. Et il a raconté à mon oncle, son fils, qu'il a assisté à des exécutions sur un plateau. On entend bien le plateau de Craonne, qui donne lieu d'ailleurs à une célèbre chanson. Alors évidemment, dans les divers camps, aussi bien allemands, français, italiens, américains, des soldats refusèrent à un moment d'être sacrifiés, ils furent exécutés, on a appelé ça à l'époque, et même maintenant toujours, des fusillés pour l'exemple, les mutins. En 1998, Lionel Jospin a osé poser la question de leur réhabilitation, en vain. 100 ans après, ils sont toujours ignorés, et je vais arriver à ma question. Alors, ils sont ignorés au nom du refus d'être un patriote à part entière, puisqu'à un moment, ces soldats non professionnels refusent de monter au combat. Alors, ma question est la suivante. D'une part, évidemment, quand est-ce qu'on assistera à leur réhabilitation, enfin? Et la question cruciale, moi, c'est la question sur la commémoration, c'est-à-dire, quand est-ce que les pouvoirs politiques donneront enfin un autre sens aux commémorations, un message de paix et d'arrêt des guerres pour le futur?
Emmanuelle Cronier, historienne.
Alors donc déjà les fusillés pour l'exemple en France, le sont principalement en 1914 et 1915. Hein. Sur les 650 fusillés pour l'exemple français, il y en a 400 en 1914-1915 et un nombre moins important en 1917. Donc déjà c'est pas forcément lié aux mutineries et par exemple c'est beaucoup moins important que ce qui se passe dans d'autres pays comme l'Italie qui est une armée très sévère pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est la première chose à dire. D'autre part, entre ce qui concerne la question des fusillés, de la réhabilitation des fusillés, en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est fait. Et c'est fait très largement, en fait, dans la mémoire, en fait, de ce conflit. C'est très présent, par exemple, dans les programmes scolaires. C'est très présent dans l'espace public. On en a beaucoup parlé, en fait, pendant ce centenaire. Notamment parce que, en 2014, il y a eu tout un tas de travaux d'historiens spécialistes de ces questions. Notamment une réflexion aussi au sein du conseil scientifique de la mission du centenaire, où effectivement s'est posée la question d'une réhabilitation individuelle hein, dont parlait Philippe, et le choix qui a été fait, c'est celui de faire une réhabilitation symbolique, notamment en réinscrivant les noms sur les monuments aux morts, en installant un espace maintenant au musée de l'armée, qui est ouvert hein, déjà, pour la place de ces fusillés au sein des débats. Et je pense que donc, en fait, c'est gagné sur ce terrain-là. Ça va pas forcément dans le sens du souhait de certaines familles, hein, comme celle de l'auditeur, mais clairement, pour moi, le combat, il est très très largement gagné sur le plan des mémoires.
France Inter, le 18-20, le téléphone sonne.
Hugo écoute l'émission et il est maintenant avec nous en direct sur France Inter. Bonsoir Hugo.
Bonsoir à tous. Donc moi, ma question, elle va être assez rapide. Moi, je suis né dans les fins des années 80. Mes grands-parents, ils ont connu la Seconde Guerre mondiale. Mais mon grand-père a été acteur de la Seconde Guerre mondiale, mais pour le coup, n'ont pas connu cette Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, au vu des conflits qu'on a économiques, géopolitiques, on arrive très rapidement à monter des extrêmes, monter du nationalisme, à monter les peuples les uns contre les autres. Et je vous le dis, moi, c'est un ressenti de ma génération. On se demande si est-ce que l'impossible peut se répéter. Donc voilà, ma question, c'est celle-ci. C'est est-ce qu'aujourd'hui, face au devoir de mémoire, on essaye d'inculquer ça, est-ce que l'impossible peut se répéter et on peut être face à un nouveau conflit mondial, mais peut-être d'une autre manière, mais en tout cas un nouveau conflit mondial.
Qui veut répondre, Franziska Heimberger?
Il y a un très joli mot qui dit que l'histoire se répète pas, mais elle rime. L'idée que on va pas avoir exactement la même reproduction de ce qui s'est passé par le passé, mais que une confrontation avec la mémoire de ce conflit, le mal qui a été fait aux sociétés européennes de tous les combattants pendant cette guerre, puisse être un enseignement précieux pour une Europe qui se construit encore de nos jours. Ça, je pense que c'est un souhait qui est partagé par nous tous.
Notre leader parlait, Hugo, il parlait des nationalismes. Et on nous demande sur le site, question tout à fait simple et directe, quels sont les pays nouveaux qui sont nés après la guerre, après cette guerre de 14-18. Il y a beaucoup de pays qui sont nés, notamment avec la dissolution des grands empires, hein, l'empire des Habsbourg, l'Autriche-Hongrie. Sur ce point, Emmanuel Cronier.
Alors sur le, effectivement, un des grands problèmes en fait du règlement de la paix dès 1919, c'est la détermination des frontières. Il y a des travaux qui sont faits pour essayer de tenir compte. En fait, on est dans une logique de construction des États-nations, c'est-à-dire d'essayer de faire correspondre autant que possible en fait les aspirations nationales des populations avec les frontières. C'est très compliqué en réalité, puisque les vainqueurs ont décidé de ne pas en fait donner satisfaction aux aspirations nationales des vaincus, c'est-à-dire qu'on n'applique pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes aux populations vaincues, comme par exemple les Hongrois ou les Allemands, hein, puisque un des objectifs c'est d'isoler l'Allemagne, ce qui explique que des États sont créés. C'est-à-dire, la Roumanie est beaucoup étendue, notamment au détriment de la Hongrie, sont fondées aussi la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Donc on a toute une logique en fait frontalière nouvelle qui se met en place en fait dans les années postérieures au conflit.
Yann Bouvier à Toulouse, professeur dans un lycée et initiateur d'un projet pédagogique sur 14-18, lorsque vous entendiez Hugo, qui est jeune et qui réfléchissait aux conséquences ou aux enseignements à tirer de 14-18. Vous parlez de cela avec vos élèves, bien sûr. Est-ce que eux aussi s'interrogent par rapport à ce conflit très lointain, un siècle ?
C'est une question qu'il se pose en permanence, effectivement, de l'éventuelle survenance d'une troisième guerre mondiale. Je ne crois pas qu'un conflit, quel que puisse être son degré de barbarie, ne puisse vacciner les sociétés contre la guerre. On en a eu un exemple fameux justement dans les années 20 et 30. Les sociétés européennes semblaient vaccinées contre la guerre, la DDR, plus jamais ça. Et puis finalement, la Seconde Guerre mondiale est survenue. Les historiens ne sont pas des devins, on ne peut pas répondre, je crois, à cette question.
Serge, bonsoir Serge, vous êtes à Dion, c'est cela ? Serge, est-il en ligne ? Non, il n'est pas en ligne, il n'est pas avec nous. Alors je vais me tourner vers le site de l'émission où on a une question de Jacques, une bonne question. Il nous demande, est-ce que l'extrême droite allemande utilise aujourd'hui l'histoire de 14-18 avec, en jouant sur, dit-il, la nostalgie de la grandeur ou sur l'humiliation qu'on aurait imposée à l'Allemagne à l'issue de cette guerre de 14-18. Franziska Heimberger.
Ce qu'il faut dire, c'est que la Première Guerre mondiale, elle n'a pas du tout le même statut mémoriel en Allemagne qu'elle a en France. En France, ça fait partie d'une mémoire très partagée, très large, les connaissances sont partagées. En Allemagne, la Première Guerre mondiale, elle a plus le même statut qu'aurait la guerre de 70 ou les guerres napoléoniennes en France. On sait que ça s'est passé, on sait que ça a eu un rôle important. Mais dans la mémoire publique, la Première Guerre mondiale, elle est largement recouverte, pour le coup, par la Deuxième Guerre mondiale qui a eu un impact sur la mémoire et le débat public sur l'histoire et le poids de l'histoire. Donc, du coup, il peut y avoir des utilisations d'éléments de la Première Guerre mondiale, mais ça n'a pas du tout la même prégnance que ça pourrait avoir en France.
Serge, là, cette fois-ci, je crois qu'il est en ligne avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne et nos invités vous écoutent, Serge.
Je vous remercie. On se souvient du président François Mitterrand tenant la main d'Edmond Kohl il y a quelques décennies déjà, et puis également du général de Gaulle qui s'était rapproché de Eisenhower. Est-ce qu'il y a ceci après la Seconde Guerre mondiale
dans Pardon, une, je, vous, un... vous faites une erreur sur les noms, il s'est rapproché de Konrad Adenauer.
On est bien d'accord.
Voilà. Eisenhower,
merci,
c'était,
merci de me corriger.
C'était le président américain et effectivement, il y avait des relations très chaleureuses entre De Gaulle et le chancelier ouest-allemand. C'est comme ça qu'on disait à cette époque-là, Konrad Adenauer. Allez-y, Serge.
Ouest-allemand. Hein. Je voulais savoir donc si après la Première Guerre mondiale, des politiques, par exemple, avaient effectué des tentatives de rapprochement entre les pays, entre les dirigeants, plutôt que d'asservir les vaincus.
Franziska Hamburger.
Ben, ce que je mentionnais tout à l'heure, justement, avec l'esprit de Locarno et Stresemann, qui était un peu l'homme moteur dans tout ça, c'était son travail qui a permis cet espoir de paix qui s'est fait dans l'entre-deux-guerres, et c'est son travail qui a permis de décrisper les relations aussi à ce moment-là, par une série de négociations et de traités qui ont permis d'assurer les frontières, de calmer les ardeurs des uns et des autres. Donc Stresemann, il fait partie de ces personnes. Personnages de l'entre-deux-guerres qui ont créé un esprit plus pacifique.
Voilà, Emmanuel Crenier. Et Aristide Briand pour la France aussi. En fait, disons que cet esprit de pacifisme, d'entente entre les peuples qui finalement deviendra ensuite fondateur de l'Union européenne elle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et même si celle-ci elle est véritablement ancrée après la Seconde Guerre mondiale, finalement il y a des choses qui se mettent en place en termes de droit international, avec aussi l'entrée de l'Allemagne dans la SDN, donc jusque 1933, qui sont aussi fondatrices de ça, avec un véritable esprit finalement d'entente entre les peuples européens qui est présent dès les années 20.
Des questions aussi concernant l'ONU et la SDN, la Société des Nations. On nous demande, c'est Jacqueline, pourquoi la SDN n'a rien donné après la guerre de 14-18 alors que l'ONU ça a marché après 1945. Emmanuel Crenier.
La SDN, fondamentalement, c'était quelque chose qui était, c'est-à-dire la Société des Nations, hein, qui a été fondée par un pacte en 1919 et qui entre en vigueur véritablement en 1920. C'est fondé sur le compromis, c'est pas ratifié non plus par les États-Unis. Hein, Wilson ne réussit pas à obtenir la ratification par le Sénat américain. Et surtout, elle manque de moyens militaires propres. Et ce manque de moyens militaires en termes d'intervention, finalement, son rôle... il est réduit à l'administration des territoires sous mandat, la question des réfugiés qui est une question véritablement centrale dans l'entre-deux-guerres, et puis d'administration de territoires comme la Sarre ou le couloir de Danzig, et finalement un rôle extrêmement réduit qui contraste avec la charte de l'ONU à partir de 1945, qui là, malgré les faiblesses parfois en termes d'intervention à l'heure actuelle, finalement se donne les moyens finalement de compenser, qui tire les leçons de cet échec de la SDN dans les années 20 et 30 hein, pour désormais avoir une véritable ampleur en termes d'intervention.
Philippe nous a envoyé ce courriel. Est-ce que les Anglo-Saxons n'ont pas essayé de limiter les sanctions par rapport à ce que la France voulait? Je pense qu'il fait allusion aux sanctions ou aux mesures très très dures qu'on voulait imposer à l'Allemagne. Qui répond? Francesca Hamburger.
Oui, ça revient aux discussions qu'on a évoquées, qui se sont faites autour du traité de Versailles, avec l'idée que Wilson, dont on connaît les 14 points, qui avançait une idée de détermination des peuples et qui voulait donc créer une situation qui serait durable et où la paix pourrait rester. Les intérêts britanniques, par ailleurs, également allaient vers un équilibre des pouvoirs sur le continent qui préviendrait une autre guerre et qui, donc, on devait donc aussi éviter de trop humilier un pays par rapport à un autre. Mais et la France, et quand on pense à la situation dans laquelle se trouvait la France, le pays où, avec le front de l'Ouest, toute une grosse partie des destructions avait eu lieu, avec toutes les dépenses qui avaient été engagées pour tout l'armement, la France, donc, et ne serait-ce que par le nombre de morts, était aussi dans une position où politiquement, il était inadmissible de se donner un air de faiblesse dans ces négociations-là. Donc, on comprend aussi cette position-là.
Vincent à Orléans, bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir. Bonjour. Moi, j'avais une question. Je trouve presque choquant d'honorer tout l'état-major français, les Foch, les Nibel, sans parler même de Pétain, alors que finalement ils ont envoyé une génération à l'abattoir. Ils ont fait une guerre quand même pas très réussie quand il y a autant de morts, et une paix pas très réussie puisqu'il y a eu 20 ans plus tard une autre guerre. Je comprends pas pourquoi on les honore autant. Honorons la paix, tout ce qu'on veut, les soldats qui sont morts, mais ça me choque un peu, moi, qu'on honore ces gradés qui sont restés derrière et qui ont envoyé beaucoup de monde à l'abattoir.
Emmanuelle Cronier, historienne.
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, le fait que les soldats ont été envoyés à l'abattoir, je pense que vous parlez peut-être du résultat, c'est-à-dire du bilan catastrophique en termes de morts, hein, puisqu'on compte 10 millions de morts à l'issue de la Grande Guerre pour tous les pays. 1 400 000 pour la France, c'est une chose. Maintenant, si les soldats français comme les soldats allemands sont allés combattre, c'est avant tout parce qu'on était dans un système de conscription obligatoire, c'est-à-dire que c'est un devoir militaire en 1914 d'aller combattre. Maintenant, la deuxième partie de vos questions, et je pense que c'est le cœur des choses, c'est que effectivement, les nouvelles formes de combat et cette attente de la percée, hein, cette recherche de la percée par l'état-major français pendant la guerre a été extrêmement coûteuse en vie humaine. Hein. Ça explique aussi que pendant la guerre, les combattants étaient extrêmement remontés hein, contre ces officiers qui ne voyaient jamais hein, de leurs propres propos et qui étaient responsables de pertes énormes avec des très petits gains sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne le fait de rendre hommage les chefs d'état-major, alors, vous faites allusion notamment à cette déclaration malheureuse, hein, on peut le dire, d'Emmanuel Macron hier, hein, qui lie effectivement la notion d'hommage au nom de Philippe Pétain. En pratique, hein, il n'y a aucun hommage qui sera rendu à Philippe Pétain samedi, il n'en a jamais été question. Hein, et d'ailleurs, l'hommage qui est rendu au maréchal, finalement, c'est quelque chose qui s'est toujours fait, parce que voilà, c'est aussi une tradition militaire, mais quelque part, c'est vrai que la place que ça prend dans le débat depuis deux jours, ça tend aussi à occulter le fait que le centenaire, ça a été un moment de commémoration de l'investissement en fait de toutes les populations dans les pays en guerre, tant les civils que les combattants, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de réduire ça, voilà. Même si effectivement c'est une vraie question, mais je pense que c'est une petite question en fait finalement qui ne doit pas prendre le pas sur toute l'impact que ça a eu sur les sociétés.
Je reprends les termes de Vincent qui disait on a envoyé des millions d'hommes à l'abattoir. Est-ce que ce genre de réflexion, est-ce que cette polémique sur le coût humain monstrueux de cette guerre, est-ce que ces polémiques ont existé après la guerre? Est-ce qu'après la guerre, dans les années 20-30, certains hommes politiques en France ont mis en cause la stratégie de ces maréchaux qui ont mené ces batailles avec un prix humain absolument énorme, Emmanuel Cronier?
Moi, j'ai l'impression, enfin, dans le débat public, c'est très présent, sauf que c'est présent à travers surtout les mouvements anciens combattants qui sont très nombreux, notamment en France, et qui portent ce débat en disant voilà, c'est-à-dire que pour eux, ils ont présent à l'esprit constamment, et leur discours politique à ces anciens combattants, c'est aussi en fait de porter la mémoire de leurs camarades morts au combat, hein, de ceux qui sont disparus, dont les corps n'ont pas été rendus aux familles. Et voilà, pour moi, c'est essentiellement par là que ce discours du plus jamais ça, en fait, il est porté dans l'entre-deux-guerres.
Un mot de Yann Bouvier à Toulouse à ce propos sur des polémiques, sur une remise en cause de la stratégie de ces maréchaux qui ont mené ces batailles de 14-18.
C'est une remise en cause que l'on observe déjà dans les écrits des soldats. Au lycée de Fonsorbe, nous avons travaillé pendant 4 années sur un journal de guerre, le journal du soldat Frédéric Branche. Et par exemple, en 1917, il évoque Mangin, il évoque Nivelles, et ce en des termes très durs. Et d'ailleurs, comme le disait tout à l'heure ma collègue, cette idée et cette défiance des soldats vis-à-vis des maréchaux qui ont été les plus gourmands, les plus dispendieux en hommes et en sang, explique notamment le fait que ni Joffre, ni Mangin, ni Nivelles ne soient enterrés aux Invalides.
En tout cas, je vous signale qu'il y aura bien sûr de nombreuses cérémonies dimanche pour cet anniversaire, pour ce 11 novembre 2018, 100 ans après l'armistice du 11 novembre 1918. Émission spéciale sur France Inter de 10h à 13h avec de nombreux invités. Émission qui sera présentée, animée par Ali Badou et Amélie Perrier. Et puis je vous signale un livre qui est paru aux éditions Radio France, un livre de Thomas Snegaroff, 14-18, comme si vous y étiez. Thomas Snegaroff, finalement, il a décidé d'imaginer 14-18 avec les chaînes info telles qu'elles existent aujourd'hui, et avec des reportages, avec des photos, que ce soit à Verdun ou au Chemin des Dames, et donc à travers 50 dates clés, 14-18 comme si vous y étiez. Et bien ça se tient dans ce livre au plus près des soldats, des généraux, des journalistes, des dirigeants politiques de l'époque, et c'est paru aux éditions de Radio France. C'est un très beau livre, 14-18 comme si vous y étiez, en imaginant que les chaînes Tout Info existaient en 14-18. Question courriel assez précise. 1918 en Allemagne. On a souvent dit que c'était le chaos politique au moment de l'armistice, le 11 novembre. Une république, c'est Nadine, elle nous écrit, une république succède au Kaiser, Guillaume II, qui a abdiqué. Pourquoi dit-on que ce régime, cette république qui succède au Kaiser Guillaume II, pourquoi on dit que ce régime est né d'une trahison, d'un coup de poignard dans le dos? Franziska Amberger.
Alors ça, c'est une question complexe qui a été beaucoup étudiée par les historiens qui travaillent donc sur l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Et en fait, on a affaire pas juste à un seul mythe du coup de poignard dans le dos, mais en fait à tout un tapis de variantes de mythes. En gros, ça se base sur l'idée que l'armée allemande à l'automne 18 aurait potentiellement encore été en mesure de combattre et que ce seraient les politiques qui auraient signé un armistice alors que en gros il y avait encore le temps de gagner. Donc en gros c'est comme ça que ça se construit et bon évidemment ça part du fait, et celui-là on le verra quand on parlera samedi dimanche de Rotonde et de la signature, c'est un civil qui signe pour l'Allemagne. Herzberg qui est invité pour l'armistice, c'est un civil alors que d'habitude les armistices sont signés par des militaires, et donc c'est là le point de départ de ce mythe tenace dans l'entre-deux-guerres.
Emmanuel Cronier.
Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les responsables, en fait, de la défaite allemande, Hindenburg et Ludendorff, qui sont au pouvoir hein, au moment où l'Allemagne, en fait, est défaite à l'été 1918, eh bien, se défaussent de la responsabilité de la signature, en fait, de l'armistice sur les politiques qui se trouvaient justement, là, en fait, les tout jeunes, hein, finalement, représentants de la République de Weimar, qui est née le 9 novembre 1918 dans ce chaos de la Révolution. Et donc, quelque part aussi, voilà, là, on a quelque chose qui se met en place et qui explique toutes les difficultés hein, d'assises politiques de la République de Weimar et de sa capacité de résister à la montée du nazisme dans les années 30.
Et commentaire d'auditeurs qui souligne qu'effectivement, en Allemagne, on ne voit pas cette guerre de la même façon que nous en France, parce que cette guerre de 14-18, avec toutes ses horreurs, elle ne s'est pas déroulée sur le sol allemand, Franziska Amberger. Rapidement, on a fini l'émission.
C'est absolument vrai, et ne serait-ce que la présence des tombes et des cimetières, c'est en France qu'ils sont et pas en Allemagne.
Merci à nos invités Yann Bouvier, Emmanuel Cronier, Franziska Amberger. C'était le téléphone sonne.